On va maintenant parler mémoire et plus particulièrement des maladies de la mémoire avec toi, Jeanne.
Alors oui, moi ce soir j'ai tout un tas de questions. Comment fonctionnent les mécanismes mémoriels? Quand est-ce qu'on parle de troubles ou de maladies de la mémoire? Comment on peut les soigner? On va tâcher de répondre un peu à tout ça dans le quart d'heure qui suit. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Chrétien, qui est chercheuse en neurosciences et coordinatrice d'études cliniques au Centre d'expertise de la mémoire du CHU de Rennes. Bonjour à vous.
Bonjour, merci de m'accueillir.
La mémoire, c'est la faculté qu'a notre cerveau de conserver des informations. Comment est-ce que ça fonctionne et comment s'opère le tri entre les choses dont on va se souvenir et celles qu'on oublie?
De façon assez schématique, on interagit avec notre environnement par nos sens et c'est la première étape en fait de la mémorisation, c'est-à-dire que tout ce qu'on va percevoir de notre environnement va être transformé en information nerveuse et va être amené à une sorte de zone de stockage en fait, de transformation de cette information qui est l'hippocampe. Et ensuite, dans cette zone, on va avoir un codage de l'information, de ce qui a été perçu. Puis, ça va partir après avec une consolidation de la mémoire vers différentes zones du cerveau où l'information va être stockée. Ensuite, quand on veut se souvenir de quelque chose, on va avoir une sorte d'amorçage, on va avoir une image et hop, par association, ça va aller en fait dans le cerveau chercher dans les différentes zones où le souvenir a été stocké et ça va aller récupérer en fait cette mémoire. Vous allez avoir différents types de mémoire. Vous allez avoir de la mémoire à très court terme qui va vous permettre de faire des petits calculs, des petites choses pour vous orienter. Ensuite, vous allez avoir différents... Finalement, c'est encore vos sens, mais vous allez avoir différents phénomènes qui vont vous aider en fait à fixer un petit peu les choses. Par exemple, l'émotion. Vous allez avoir aussi la concentration, la motivation. Et toute cette attention en fait, que vous allez porter finalement à votre environnement, ça va permettre de fixer un petit peu plus et de passer à une mémoire à court terme qui va durer quelques minutes, quelques heures, éventuellement quelques jours. Et après, vous avez un autre phénomène encore de consolidation, un petit peu plus complexe, où là, donc, votre mémoire votre souvenir ou ce que vous avez emmagasiné va être stocké dans votre cerveau. Et là, par contre, on parle plutôt de mémoire à long terme. Donc, on est en jours, en mois, en années. Et vous allez avoir deux mémoires dans ce cadre-là. Vous avez une mémoire, on va dire, implicite. Donc là, c'est vos souvenirs, tout simplement, qui est consciente. Et puis, vous allez avoir une sorte de mémoire aussi qui est moins... qui est plus inconsciente, donc qui n'est pas implicite, mais c'est comme, par exemple, votre mémoire procédurale. Vous avez appris à faire du vélo. Et bien, ça, c'est quelque chose que vous n'oublierez pas. Une fois que vous l'avez appris, ça y est, c'est fait. Mais vous n'y pensez pas quand vous reprenez votre vélo. Vous ne réfléchissez pas à mince, comment est-ce qu'on fait? Ça vient tout seul. Lorsque vous commencez à apprendre quelque chose, vous allez avoir un petit peu de mal. Ça va être un petit peu mal dégrossi. Vous allez tâtonner. Et puis, petit à petit, vous refaites le mouvement, et ça commence à devenir automatique. Ça, comment ça fonctionne? C'est juste que vous avez en fait vos neurones qui vont s'organiser pour apprendre à faire ce mouvement que vous répétez. Donc finalement, vous fixez en fait votre mémoire par consolidation, par répétition. Ça vaut pour la musique, ça vaut pour un tas de choses, hein, pour le sport, pour beaucoup d'autres activités. Donc vous avez ces deux types de mémoire à long terme. Et voilà, de façon très schématique, parce que vous avez beaucoup après de sous-catégories, hein, mais voilà grosso modo comment ça se constitue.
Et comment est-ce que ça fonctionne entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme? Est-ce que c'est le fruit de choix? Notre cerveau décide de consolider et donc de garder un souvenir ou de l'éliminer dans une mémoire à court terme?
C'est pas vraiment... C'est un choix, je dirais peut-être inconscient, parce que c'est de l'attention que vous allez porter à des choses qui vous intéressent. Vous n'allez pas retenir des choses... Enfin, ça arrive de retenir malheureusement des choses qui ne sont pas très, enfin qui nous intéressent pas, mais globalement quand même, c'est toujours notre attention, notre motivation, notre concentration vers des choses qu'on doit faire, qui sont nécessaires ou qui nous font plaisir. Donc en quelque sorte, on peut parler de choix. Et le reste après va partir petit à petit, va être oublié finalement pour que la mémoire puisse faire de la place pour les choses qui vous intéressent. Oui.
Et on peut travailler aussi un souvenir, une information pour s'en souvenir.
En fait, quand vous vous souvenez de, c'est ça, on parle de mémoire épisodique. Quand vous avez un souvenir, Vous allez avoir votre vision qui va fonctionner, votre audition qui va fonctionner, vos sens, tout ça ensemble, l'environnement, tout ce que vous voyez. Et tout ça, c'est stocké donc dans différents endroits. Et c'est toujours après, par association, que vous allez repêcher ce souvenir. Donc plus vous faites attention à votre environnement, plus vous avez cette interaction, plus après vous allez avoir la capacité de pouvoir tirer le fil, on va dire, de ce souvenir, et ça va revenir de plus en plus facilement.
Parce que les souvenirs sont situés dans différentes zones du cerveau?
Les mémoires épisodiques, donc la mémoire effectivement des souvenirs, va être dans différents endroits. Je ne vais pas vous donner les noms précis des différentes zones, mais si on parle par exemple de mémoire procédurale dont on parlait tout à l'heure, qui était plus faire du vélo, vous allez avoir une zone motrice plutôt, par exemple, qui va être ciblée. Si vous parlez, vous allez avoir le cortex visuel qui va être situé aussi à une zone particulière. Mais quand vous avez un souvenir, bah vous avez toutes ces zones-là en fait, qui vont interagir entre elles et qui vont s'associer. Donc finalement, votre souvenir, il va être impliqué, il va être stocké dans beaucoup plus de zones en fait, du cerveau que les mémoires plus simples.
Oublier est une fonction normale du cerveau.
Oui.
Quand est-ce qu'on peut parler d'un trouble de la mémoire ?
Alors, on va parler de trouble de la mémoire lorsque ça devient handicapant, lorsque ça interagit, ça interfère plutôt avec votre vie quotidienne. Lorsque ça commence à vous gêner, lorsque vos proches s'en aperçoivent et que ça vous gêne aussi, finalement, qu'il y ait ces troubles-là. Ça peut être des choses très très légères, mais c'est souvent d'ailleurs les proches qui commencent à détecter ces troubles-là. Mais à partir du moment où ça commence à vous gêner, on peut parler de troubles de la mémoire, ou troubles cognitifs, hein, parce que la mémoire, c'est dans la cognition, il y a aussi l'orientation spatio-temporelle, il y a plein d'autres choses en fait dans la cognition. Mais effectivement, voilà, c'est à partir des troubles et jusqu'à un moment où ces troubles interfèrent tellement avec votre vie quotidienne que vous n'êtes plus autonome. Donc on va parler après de dépendance, et donc c'est là que ça devient effectivement critique, voilà, quand on a ces troubles-là.
Émilie Chrétien, je le rappelle, vous êtes chercheuse en neurosciences. Quand on pense aux maladies de la mémoire, aux principaux troubles, on pense forcément à la maladie d'Alzheimer,
oui,
qui est peut-être la plus médiatisée.
Mm-hmm.
Il en existe plein d'autres. Oui. Quels types de troubles de la mémoire sont reconnus aujourd'hui ?
Alors c'est vrai qu'on parle, on parle de maladie d'Alzheimer et maladie apparentée, donc ce groupe-là va représenter 2/3 des maladies neurodégénératives, mais déjà dans ce groupe-là il y a des disparités parce que vous allez trouver des formes de maladie d'Alzheimer très typiques où on va retrouver toujours les mêmes symptômes et puis après des choses beaucoup plus diffuses avec beaucoup de facteurs qui vont interagir. On pense que c'est une maladie d'Alzheimer mais il faut d'autres arguments, ça rentre quand même dans le même paquet, mais on va dire de maladies, mais c'est parfois un petit peu borderline par rapport à ça. Donc il y a cet ensemble de maladies, mais il y a beaucoup d'autres maladies neurodégénératives. Je pense que la maladie de Parkinson aussi est assez connue. Après, c'est souvent en termes de fréquence, enfin de prévalence de la maladie. La maladie de Huntington, un petit peu moins, mais néanmoins, je pense qu'on peut en parler. Dans les troubles neurodégénératifs, il y a aussi la maladie à corps de Lévy, dont on parle de plus en plus, mais enfin, ça reste quand même, je trouve, assez marginal. Vous avez les démences frontotemporales. Alors ça, par exemple, on va vous parler de DFT, qu'est-ce que c'est ? Vous avez au niveau physiologique aussi des neurones qui dégénèrent, pas forcément exactement dans les mêmes zones que dans celles de la maladie d'Alzheimer, et qui vont provoquer des symptômes aussi, des troubles de mémoire, aussi des troubles spatio-temporels, mais pas exactement les mêmes.
Donc ça compte après, comme une maladie neurodégénérative aussi,
oui,
la démence ?
Ah oui, tout à fait. Il y a un certain nombre encore de maladies dont on ne parle pas, et puis des cas après très, très, très précis, très, très rares. Et dans ces cas-là, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut voir au centre mémoire, donc au CMRR, Centre Mémoire, Ressources et Recherches. Il y en a plusieurs, hein, en France, il n'y a pas qu'à Rennes. Il y a Brest, bien sûr, donc c'est les deux CM2R de Bretagne. Et puis après, il y en a 28 au total en France. Donc dans ces centres experts, effectivement, on va voir des choses un petit peu plus rares. Et puis sinon, il y a aussi la sclérose en plaques, si on veut parler encore de d'autres maladies neurodégénératives qu'on connaît. Donc, ou en tout cas qui sont étudiées, dont on parle et pour lesquelles il y a de la recherche qui est mise en place.
Et en dehors des maladies neurodégénératives, il y a d'autres types de troubles aussi, comme l'amnésie ou l'agnosie.
Là, on est vraiment sur du trouble de la mémoire qu'on peut retrouver après dans différentes pathologies. Hein. Cette agnosie, donc là, c'est un trouble, c'est un de vos sens qui... Il y en a d'autres, hein, mais là, si on parle d'agnosie des sens, par exemple, c'était l'exemple que je prenais dans la conférence. Vous voyez une tomate, mais vous ne la reconnaissez pas. C'est-à-dire que vous avez votre cortex visuel qui fonctionne, vous voyez cette tomate, mais ce qui remonte vers votre cerveau, il n'y a pas de transformation en fait de ce que vous voyez en sens. Mais par contre, si vous prenez cette tomate que vous ne reconnaissez pas et que vous la goûtez, vous reconnaissez, parce que votre sens du goût fonctionne encore, vous reconnaissez la mémoire du goût, donc cette tomate, et voilà. Et donc là, vous allez pouvoir identifier cet objet. Et donc ça, c'est l'agnosie, mais vous pouvez donc, comme je vous disais, la retrouver dans différentes pathologies. Et après, l'amnésie, c'est plus des choses qui sont en lien avec c'est des causes toxiques ou infectieuses ou des chocs, des traumas, par exemple, qui vont vous faire perdre la mémoire de façon temporaire ou non, plus ou moins longue. Mais par exemple, une des raisons de consultation en neurologie, ça va être l'ictus amnésique. L'ictus amnésique, c'est quelque chose qui arrive relativement fréquemment après 50 ans. On perd la mémoire de façon temporaire et puis ça revient complètement et il n'y a rien de... C'est pas méchant, entre guillemets. Enfin, voilà, c'est pas un trouble qui va persister après dans le temps et qui va vous gêner au jour le jour.
Et quand on vieillit, c'est considéré comme un trouble de la mémoire également ? Quand notre mémoire est un peu plus fragile ?
Alors, quand on vieillit, c'est normal d'avoir une mémoire qui fonctionne un peu moins vite, un peu moins bien. On fixe un peu moins les choses. On a un peu plus de mal à retenir les informations nouvelles, à faire de la place. On a un peu plus de mal aussi à aller pêcher ses souvenirs. Mais ça, c'est normal. Si on reprend les muscles, quand on vieillit, les muscles vieillissent, on court moins vite. Et bien, quand on vieillit, le cerveau vieillit, on retient moins vite. Et ça, c'est juste quelque chose... Il ne faut pas s'inquiéter pour ça, parce que souvent, on va avoir des personnes qui vont être très anxieuses, parce que oh, j'arrive plus à me souvenir de ça, ça va moins bien qu'avant. D'accord, mais c'est normal. Voilà, c'est fait partie du processus de vieillissement normal.
Pour revenir aux maladies neurodégénératives, qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans notre cerveau quand on est atteint d'une telle maladie ?
Si on prend la maladie d'Alzheimer, hein, pour revenir donc à ce grand groupe-là, vous allez avoir une accumulation en fait de protéines qui sont anormales. La protéine amyloïde, je pense que c'est celle qui est la plus connue. On va parler de plaque amyloïde ou de plaque sénile. En fait, cette protéine, au lieu de servir au fonctionnement normal des neurones, elle va être coupée en petits bouts. Et elle va s'accumuler, d'être détruite, parce qu'il y a des cellules qui sont là pour détruire les dégradations cellulaires, eh bien, elle s'accumule, elle fait ces espèces de bouchons et elle empêche en fait l'information nerveuse de passer entre les neurones. Alors, cet amas d'amyloïde, il faut savoir que ça existe aussi au cours du vieillissement. Donc, ce n'est pas parce qu'on a de l'amyloïde qu'on a la maladie d'Alzheimer. Par contre, on en a plus et on en a dans une accumulation dans certaines zones. Donc, c'est un argument en plus pour aller vers un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Mais l'amyloïde seule, on a toujours besoin d'un faisceau d'arguments pour un diagnostic. On ne peut pas, juste sur la base d'un seul élément, dire qu'on a ce profil Alzheimer. Mais effectivement, voilà, on retrouve ces amas qui bloquent la circulation de l'information. Du coup, les neurones sont isolés. Du coup, ils dégénèrent. Et du coup, c'est ce circuit finalement qui permet d'apprendre, de fixer ce que vous voyez, vos souvenirs et ce que vous apprenez va se défaire et vous allez petit à petit aussi perdre ce que vous avez emmagasiné. Plus après, quand ça touche après les autres zones, vous allez
Ça se répand d'un neurone à l'autre, en fait.
Alors, il y en a une qui ne se répand pas et l'autre qui se répand. Donc ça, c'est la protéine Tau. Et celle-ci, elle a tendance à... Ben, en fait, elle est à l'intérieur des neurones. Elle permet à structurer ces neurones qui se tiennent un peu les uns les autres. Et donc, comme elle est... Quand on a cette protéine Tau qui n'est pas normale, qui devient anormale, elle défait en fait la structure des neurones de l'intérieur. Et comme normalement, ils sont connectés, ces neurones, ben, ça passe d'un neurone à l'autre. Et donc, ça finit par, en fait, ça contamine, entre guillemets, le reste du circuit.
Et quand on veut soigner ces maladies, du coup, on essaie d'agir sur cette protéine ?
On essaie d'agir, effectivement. C'est les deux grandes cibles, en fait, qu'on a pour l'instant. Il existe des traitements aujourd'hui qui ne ciblent pas ces deux protéines. Donc, ces traitements qui sont mis sur le marché, mais aujourd'hui déremboursés, ce sont des traitements qui vont cibler plutôt l'activité globale du cerveau, parce qu'on voit qu'on a moins d'activité. Donc, on essaye de booster un petit peu ça. Et aujourd'hui, maintenant qu'on connaît en fait ces accumulations d'amyloïdes et de taux, aujourd'hui, ça fait 20 ans hein, qu'il y a des essais cliniques qui sont dirigés vers ces deux protéines-là. Donc, on essaye d'empêcher les amalgames, on essaye d'empêcher leur fabrication, on essaye de bloquer les protéines anormales quand il y en a. Et alors, pour les amyloïdes, malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas d'essais concluants. On continue d'avoir des essais cliniques qui ciblent quand même cette protéine amyloïde parce que on sait qu'elle est impliquée, mais petit à petit on commence à aller vers la protéine Tau. Et donc là, ça fait un an et demi maintenant qu'on a deux essais cliniques en cours. On ne sait pas encore ce que ça va donner en termes d'efficacité. On va avoir probablement des résultats l'année prochaine et on croise les doigts parce que en dehors de ces traitements-là, on n'a rien du tout. Bon, médicamenteux en dehors des parce qu'il y a d'autres façons après.
Il y a d'autres systèmes pour ne
Ça ne va pas cibler ces protéines-là, mais par contre, il y a des façons d'améliorer finalement la qualité de vie et puis de retarder la perte d'autonomie. C'est beaucoup d'interactions sociales, c'est de la prévention, c'est manger bien, bouger bien. Il n'y a pas vraiment après de solution miracle. Il y a beaucoup d'essais cliniques depuis quelques années qui ciblent une meilleure alimentation, qui essayent de voir comment un programme de diététique plus de l'activité physique peut améliorer la cognition, l'interaction, ou alors les symptômes de la maladie d'Alzheimer. On a aussi des symptômes comportementaux qui sont des fois qui interagissent aussi avec la vie quotidienne. Donc tout ça, ça permet d'améliorer en fait, ça permet d'améliorer la vie. Donc, et ça vaut à tous les stades, hein. Ça vaut pour la, pour préserver ce qui est intact encore chez les personnes à des stades avancés, mais ça permet aussi de retarder le basculement vers cette perte d'autonomie chez les personnes qui sont atteintes à un stade léger.
D'accord, donc pour l'instant, il y a moyen de retarder, mais il n'y a pas moyen de soigner définitivement.
Non, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de thérapie curative. On n'a que des choses qui freinent, très légèrement pour les médicaments qui sont déremboursés aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont été, mais qui sont quand même, qui restent sur le marché. Et puis dans les autres, aujourd'hui, on a rien qui sort justement parce que... Enfin si, là, il y en a un, mais c'est pas qu'entre ces protéines-là, il y a un essai qui ça, j'en parle parce que ça fait du bien de temps en temps quand on a un qui marche contre l'agitation ou l'agressivité donc dans la maladie d'Alzheimer. Donc on a un traitement là qui a l'air de faire quelque chose de positif, donc du coup, voilà. C'est la pime avant Sérine, je fais de la pub, hein, mais voilà, c'est de temps en temps, il y en a qui fonctionne, donc ça permet de garder la motivation pour continuer.
Et en dehors de ces traitements sur les protéines aménoïdes et tau, est-ce qu'il y a d'autres pistes qui vous semblent prometteuses pour soigner les maladies neurodégénératives ?
Alors, si on parle en termes de recherche fondamentale, donc parce que moi j'ai les deux casquettes, hein, j'ai une formation vraiment chercheur, là je suis maintenant en clinique, mais avant j'étais vraiment plus en recherche fondamentale. Il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de l'inflammation. On dit souvent, voilà, on va parler de résidus oxydants, de choses comme ça, et donc il faut faire du sport pour diminuer cette inflammation, et que c'est ça qui fait du bien. Ça vaut à peu près pour toutes les pathologies, hein. Enfin, c'est encore, on revient sur de la prévention, bouger, tout ça, c'est voilà, ça réduit ça. Il y a un essai du coup qui porte là-dessus. Après, il y aurait un lien, donc ça c'est un essai qui va commencer là, entre une bactérie de la flore buccale qui jouerait un rôle sur l'amyloïde. On est encore sur l'amyloïde, mais voilà. Et donc, par contre, on parle de résultats précliniques ou même encore avant chez la souris. Donc il faut voir après qu'est-ce qu'on arrive à trouver sur les différentes phases de développement du médicament. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il n'y a pas énormément finalement de... Il y a des neuroprotecteurs, si on essaie quand même de développer des neuroprotecteurs. Alors là, ce n'est pas des essais qu'on fait nous, mais dans d'autres structures.
Et comment ça fonctionne ?
Il y a un défaut d'activité de façon globale dans le cerveau des patients qui ont la maladie. Et puis il y a aussi alors ça s'appelle un neurotransmetteur, en fait c'est une molécule chimique. Il y en a plein, en fait les neurones ils communiquent avec ça, avec ces molécules chimiques qui leur donnent des messages, ils se donnent des messages les uns les autres avec ça. Et en temps normal, ce glutamate, donc cette molécule-là, elle est bien captée, elle est bien dégradée, tout se passe bien. Mais quand elle s'accumule un petit peu trop, elle abîme en fait les neurones. Déjà qu'ils sont pas en forme, en plus, donc elle les dégrade. Et donc on essaye de bloquer en fait les récepteurs à ce glutamate pour que les neurones soient préservés et qu'ils ne souffrent pas en fait de dégradation. Donc il y a voilà, ça fait partie effectivement des recherches, mais on n'est pas encore au niveau des essais cliniques, on est vraiment encore en amont. Et puis aussi, alors ça, ce serait, c'est des choses qui se font aussi dans la sclérose en plaques, et ce serait super de pouvoir régénérer, en fait, de pouvoir recréer, refaire des neurones, refaire de la connexion synaptique. Mais bon, voilà, là, ça, on parle de cellules souches, mais c'est très très préliminaire. On n'y est pas encore.
Mais il y a des promesses, en tout cas, pour l'avenir.
Oui, voilà, il y a encore des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de recherches qui se font, hein, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Et c'est vrai que quand on voit la recherche dans d'autres secteurs, d'autres maladies neurodégénératives, comme par exemple encore la sclérose en plaques, enfin, les thérapies ont énormément évolué en 15 ans. On aimerait bien aussi pouvoir proposer plus de qualité de vie et quelque chose qui permet de freiner cette maladie, si on ne peut pas la stopper, au moins qu'on puisse la freiner, parce que voilà, c'est vrai que pour les familles, pour les aidants, c'est insupportable. Donc ce serait bien de pouvoir avoir quelque chose.
Ça représente à peu près combien de patients en France?
On est sur la France, on était autour de 200 000 personnes de nouveaux cas par an. Alors après, on vieillit aussi, enfin la population vieillit, et c'est vrai que quand on dépasse un certain âge, le pourcentage de patients, enfin de personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs et puis après de maladie d'Alzheimer augmente aussi. Plus on cherche, plus on trouve, donc il faut aussi prendre ça avec des pincettes, mais et puis aussi voir que c'est faire la part entre le vieillissement et puis la maladie. C'est pas parce qu'on commence à avoir des troubles de la mémoire, tous les troubles de la mémoire ne sont pas la maladie d'Alzheimer, donc il y a aussi des fois c'est juste le vieillissement normal, et puis c'est la vie et c'est comme ça. Donc il faut, d'un point de vue éthique, ça se discute aussi de chercher nécessairement à poser un profil ou quelque chose, c'est pas toujours le cas.
Et est-ce qu'il y a des facteurs, par exemple génétiques, qui expliquent qu'une personne sera plus exposée qu'une autre ?
Alors, vous allez avoir... Alors, il y a des cas de maladie d'Alzheimer génétique. Il y a très... très petit nombre de familles en France qui ont ce qu'on appelle des mutations autosomales. Donc en fait, c'est des mutations sur des gènes qui font que si vous avez cette mutation, vous la transmettez nécessairement à vos enfants. Et votre enfant va développer la maladie d'Alzheimer au même âge que vous. C'est-à-dire qu'en général, c'est des cas jeunes. Si vous développez la maladie à 45 ans, que vous avez votre parent qui a développé la maladie à 45 ans, vous allez la développer à 45 aussi. Voilà, donc ça, c'est des mutations qui sont connues. Il y a des conseils génétiques et puis toute une prise en charge par rapport à ces familles-là. Et après, vous avez des facteurs de risque. Donc ce sont des facteurs de... Ce sont des prédispositions, entre guillemets, mais ce ne sont pas des certitudes. Ce n'est pas parce que, vous fumez tous les jours que vous allez avoir un cancer du poumon. Ce n'est pas parce que vous avez un facteur de risque que vous allez forcément développer la maladie. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue statistique, vous avez plus de risques si vous avez certains allèles, donc certaines formes de gènes. Vous allez aussi avoir plus de prédispositions. Ça va dépendre de l'âge, ça vous y pouvez rien, mais plus de dispositions aussi en fonction du sexe, en fonction de d'antécédents que vous pouvez avoir par rapport à votre famille. Si vous fumez, l'alcool aussi, ça fait partie des facteurs de risque. Donc vous avez toutes ces choses qui... On revient encore sur de la prévention, la médecine chinoise. Voilà, soyez en bonne santé, bougez. Mais effectivement, voilà, ça joue. Tous ces facteurs-là peuvent jouer sur le développement de la maladie.
Merci à vous, Émilie Chrétien.
Avec plaisir, encore une fois.
Je le rappelle, vous êtes chercheuse en neurosciences et coordinatrice d'études cliniques au Centre de mémoire, de ressources et de recherche du CHU de Rennes. Vous avez présenté la semaine dernière une conférence sur les maladies de la mémoire à l'espace des sciences au Champ Libre. La vidéo de la conférence est à retrouver sur leur site internet. Et bien entendu, vous pourrez accéder au podcast de cet entretien sur SILAB.fr.